justement notre méditation sur la maternité de Marie, Marie Mère de Dieu, et le fait que sa Mère de Dieu, c'est pas quelque chose qui, elle en a le privilège, c'est évident, mais elle est Mère de Dieu, mais comme Jésus nous a donné Marie, voici ta Mère, c'est quand même la dernière parole, c'est l'héritage de Jésus. C'est le fameux héritage qu'il a laissé chez le notaire, inscrit dans son cœur, et il nous a laissé sa mère. Il a même dit, d'abord par oral, puis ensuite il a écrit chez le notaire, c'est la blessure du cœur, l'inscription, il a écrit sur son cœur. Et cette inscription de son cœur, cette ouverture, en est l'expression et la signature, puisque c'est de son cœur que c'est là qu'on arrive à lire le mystère de l'Immaculée Conception. Et c'est quand même quelque chose de très fort. Il nous l'a donné, c'est notre héritage. Donc cette maternité divine, s'il nous l'a donné, c'est que c'est pour nous. Si c'est pour nous, c'est que nous devons, d'abord regarder le don que Jésus nous a fait, pas le scruter, le comprendre, et donc le prendre. Et le prenant, du coup, on peut vivre ce qu'elle a vécu comme mère de Dieu, mère divine. Alors à ce moment-là, le don du Saint-Esprit devient efficace. Parce qu'il nous a donné aussi l'Esprit-Saint. Mais le don de l'Esprit-Saint ne peut être efficace que par Marie, puisque l'Esprit-Saint par lui-même ne peut pas agir. Il n'est pas actif, il est substantiellement passif, l'Esprit-Saint. Que par Marie que le don de l'Esprit Saint est efficace. C'est ça qui est extraordinaire. Alors Marie, c'est notre sœur. Et c'est facile pour nous d'aimer Marie. D'aimer la Mère de Dieu. C'est facile parce que c'est notre sœur. Et elle est remplie de bonté, de lumière, d'amour. Elle est resplendissante de tendresse pure. Elle est victorieuse de tous les obstacles, de toutes nos opacités. Elle nous aime avec un amour aussi grand, profond, intime et éternel que Dieu qui brûle le cœur de Jésus. Alors, c'est fou, quoi. Comme elle nous aime, c'est fou. Et puis c'est facile de l'aimer, parce que aimer sa sœur, c'est facile. Hein? Alors on a vu, si vous voulez, à quel point cette maternité divine de Marie, elle procède du temps, elle est créée, c'est notre sœur. Elle s'appuie sur Marie. Il y a quelque chose, une maternité divine ça procède d'elle. De même que l'acte de foi procède vraiment de nous. À partir du moment où Dieu nous a donné Marie, ça y est, la grâce est en nous. Si Dieu nous a donné Marie, ça y est, la grâce est en nous. Acte de foi, acte d'espérance. Par l'acte de foi, je pénètre dans le ciel ouvert. L'Immaculée Conception, le don de Marie, m'est fait, je reçois cette grâce totale qui est entièrement glorifiée puisqu'elle est dans l'Assomption, qui est entièrement éternisée puisqu'elle est brûlée par le feu de la vision béatifique et de la lumière de gloire. Je reçois cette grâce et je fais l'acte d'espérance du chrétien en recevant Marie. C'est l'acte d'espérance finale de celui qui a compris que l'Esprit-Saint nous donne Marie à travers le mystère de l'Assomption. Puisque depuis 1950, maintenant, on est obligé de faire un acte d'espérance qui va jusqu'au don de Marie dans l'Assomption, la grâce brûlée par la gloire de la vision béatifique en Marie. C'est pour ça qu'en 1950, quand le dogme a été prononcé du mystère de l'Assomption, à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu, et porté par l'Esprit Saint à faire un acte d'espérance qui implique l'accueil de Marie. L'accueil de cette grâce, non seulement en plénitude, mais plus totalement déployée dans la gloire et brûlée par la vision béatifique. Et nous devons le recevoir ici, dans notre pauvreté. Et c'est à partir de nous. Parce que l'acte de foi procède de Marie. Et c'est nous qui sommes la coupe de cet accueil, et c'est à partir de là que procède notre acte de foi. L'acte de foi procède d'ici, du temps. Il plonge du coup en raison de sa puissance, parce que c'est une puissance qui est donnée par Dieu le Père lui-même et l'Esprit Saint lui-même. Parce que le Père, par la puissance d'amour de l'Esprit Saint, engendre éternellement, à travers le corps glorifié de Marie, un Verbe de Dieu rempli de gloire qui va aller encore plus loin que dans le mystère de l'Assomption. Il veut glorifier toute la création. Et donc vous saisissez à travers ça que Marie, quand elle est dans l'Assomption, elle ne fait plus aucun acte de foi. Donc, on peut dire que Marie, quand elle est au ciel, elle n'a plus la foi. Parce que quand tu dis, moi, je n'y comprends rien. Je n'y comprends rien. J'arrive pas à prier. J'y comprends rien. Mais je crois quand même. Ah, t'as fait un acte de foi. T'as pas fait un acte de foi parce que tu comprends tout. Ah, je comprends tout, c'est génial, donc j'ai la foi. Ah non, pas ça. L'acte de foi, c'est... Il y a quelque chose que je comprends pas. J'arrive pas à prier. Je crois quand même, tu sors de ça. Tu t'en fiches, tu continues. Tu vas tout à fait au sommet quand même, malgré ça. Là, tu as fait un acte de foi, tu comprends? Mais Marie, quand elle est dans l'Assomption, elle ne peut plus faire d'acte de foi, puisqu'elle est au ciel. Puisque l'acte de foi, c'est d'aller au ciel, bien qu'on soit complètement dans les ténèbres de la terre. Mais Marie est au ciel, elle n'est plus juste dans les ténèbres de la terre, elle est déjà arrivée, donc elle n'a plus besoin de faire d'acte de foi. Tu fais un acte de foi à partir du moment où tu dois traverser les ténèbres pour aller au-delà où Dieu est, rempli de lumière. Mais Marie, elle est déjà au bout, remplie de gloire, remplie de cette lumière éternelle. Il n'y a plus aucune obscurité. Donc elle ne peut plus traverser les ténèbres, elle est remplie de gloire. Mais comme Jésus, sur la croix, nous avait donné Marie, le jour où Marie ressuscite, comme ça, dans le mystère de l'Assomption, c'est à sa mort, hein, qu'elle est d'un seul coup, au même moment où elle était morte, au même moment elle est ressuscitée. Parce que Jésus, c'était pas vrai. Il est mort et il a fallu attendre hein, pour qu'il ressuscite. 3 jours. Le troisième jour, il est ressuscité. Parce que Marie, elle est morte, et il n'y a même pas eu une demi-seconde entre les deux. Même pas un millième de seconde, même pas un milliardième de seconde. Au même instant, elle est morte, et en même temps, elle est ressuscitée. Jésus était pressé, hein. Au même instant. C'est là qu'on voit que Jésus aimait, hein, et qu'elle aimait Jésus. Et, de toute façon, c'est Jésus qui a tout fait et c'est Dieu qui a tout fait. Et elle, elle avait donné avec son corps, elle avait donné la forme au corps de Jésus. C'est ce que dit Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, que le corps, le cœur, l'âme de Marie avait donné, c'était le moule de Jésus, le moule de l'humanité sainte de Jésus. Mais au moment de l'Assomption, c'est le contraire, c'est le corps glorieux du Christ qui devient le moule du corps glorifié de Marie. Elle prend une forme totalement nouvelle comme corps. Et c'est Jésus qui donne, qui est ce moule du corps glorifié de Marie. C'est la juste réponse. C'est son action de grâce à Jésus. Tu m'as donné un corps, tu m'as moulé un corps, et du coup de la résurrection, il l'assume et il remoule le corps de Marie à travers son corps glorifié. Donnant, donnant, mais enfin évidemment, c'est pas la même chose. C'est une action de grâce. C'est pour ça qu'on dit que la messe, c'est une eucharistie, une action de grâce. Parce qu'à la messe, c'est ça qui nous est donné, l'action de grâce du Christ ressuscité, qui dans son corps glorieux veut donner ce moule au corps glorifié de Marie et réaliser ainsi avec elle l'unité de chair glorieuse. Ce qui montre bien que Marie reste la petite enfant du Père. Et en même temps, elle reste aussi l'épouse du Saint-Esprit, quoi. Et la mère du Fils. Avec son corps. Alors, c'est quand même quelque chose qui se passe, qui est très très mystérieux, parce que le... Et c'est drôlement intéressant de regarder ce qui se passe dans le corps de Marie, parce que c'est nous, ça... C'est ce que Jésus va faire pour nous. Si on aime Marie, Jésus va faire pour nous avec la même degré d'intensité qu'on aura accepté le mystère de Marie, quoi. Qu'on l'aura aimé. Jusque dans notre chair, tu vois. Jusque dans notre corps, tu vois. Dans notre foi. Alors, c'est quand même extraordinaire, ça. Son corps est entièrement, du coup, autre. Dieu crée toutes choses nouvelles, le ciel et la terre. Un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le nouveau ciel, chapitre 21 de l'Apocalypse, le nouveau ciel, c'est son intelligence, c'est sa foi. Sa foi, son intelligence est entièrement brûlée par la foi, la plus pure, une foi, qui est tellement brûlée que la foi est brûlée, et donc il n'y a plus de foi. D'un seul coup, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de l'amour. Et donc son intelligence est entièrement transformée. Ce n'est plus une intelligence humaine. Elle ne subsiste plus, j'allais dire, son intelligence humaine dans son être de femme, de la même manière que sur la terre. La subsistance a changé de l'intelligence dans l'être de Marie. C'est le même être et pourtant le mode de subsistance de l'intelligence de Marie dans la vision béatifique a changé. C'est inouï. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la foi de Marie n'a plus du tout le même mode, physiquement, spirituellement, du tout, du tout, du tout. La foi de Marie s'est éclatée, explosée, sous le feu de la lumière de gloire, Lumen Gloriae, qui a pénétré dans son intelligence incarnée physique, puisque vous savez que notre intelligence humaine s'exerce à travers le corps. On est intelligent avec son corps. Par exemple, si je te touche, je vois que tu existes. Mais si je te touche pas, peut-être que tu es un rêve. Mais dès que mon corps, j'essaie d'être intelligent avec mon corps, je vois que tu existes. Sinon, je ne sais pas si c'est de l'imagination ou si c'est vrai. Donc tu vois bien que mon corps, j'ai besoin de mon corps pour être intelligent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc c'est bien à travers l'assomption de son corps que son intelligence pénètre à l'intérieur de la gloire de Dieu et va recevoir un nouveau ciel. C'est un nouveau ciel, c'est une nouvelle manière. Le nouveau ciel, c'est sa gloire intra-verbum, à l'intérieur du verbe. La lumière, lumen, gloriae. La lumière de gloire. Lorsqu'on va rentrer au ciel, notre intelligence très concrète, si je puis dire, enracinée dans notre être, va être entièrement, va recevoir comme un feu rentre dans une mèche qu'on allume, va recevoir une lumière brûlante d'amour qui nous fera voir le Père à la manière dont le Verbe de Dieu, dont Dieu voit le Père. C'est l'intelligence de la personne divine qui nous fera voir dans un amour incréé, éternel, c'est ça la vision béatifique, Dieu, comme Dieu voit Dieu. C'est l'intelligence de Dieu, si vous voulez, mais c'est fou, complètement fou. Intra verbum, lumen gloriae, lumière de gloire, à rentrer dans... Et donc notre intelligence ne va plus s'exercer du tout, essentiellement, substantiellement de la même manière qu'une intelligence humaine. C'est la manière d'une intelligence divine. Donc, c'est rien à voir. Et pourtant, ça reste notre intelligence humaine, quelque part. Puisque ça reste la mèche. Le feu pénètre dedans. Mais ça reste, ma mèche reste là. N'est-ce pas ? Et vous voyez comme c'est incroyable. Ou du moins, comme c'est croyable, puisque c'est l'objet de notre foi. C'est l'intelligence divine, et on va voir Dieu comme Dieu se voit Dieu. C'est à l'intérieur du verbe, intra-verbum. Et il y a là, voilà pour le ciel, nouvelle terre, extra-verbum. Extra-verbum, toute l'humanité de Marie, corps, vie, sensitif, toutes les passions, tout point de vue psychologique, tout point de vue cordial, tout point de vue affectif, tout point de vue physique, est entièrement brûlé par l'humanité remplie de gloire de Jésus. C'est une espèce de rencontre amoureuse et une unité où on épouse, où on va épouser complètement Jésus rempli de gloire. C'est Jésus rempli de gloire, dans son humanité, rempli de gloire, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui brûle totalement toute l'humanité de Jésus. Et du coup, on va devenir, dans cette unité glorieuse, Jésus devient le moule de notre tout notre corps, toute notre sensibilité, toutes nos passions. Et du coup, on va devenir épouse du Saint-Esprit en faisant une seule chair avec l'humanité sainte de Jésus. Alors, l'Esprit-Saint, c'est un amour qui est beaucoup plus, c'est ce que je vous disais tout à fait au début, au premier jour, qui n'a rien à voir avec l'infini. L'infini, c'est rien à côté de l'Esprit-Saint du point de vue de l'amour. C'est rien. Donc nous avons rejeté l'erreur de Duns Scott, de Descartes, de Feuerbach pour le comprendre. Et du coup, notre sensibilité est brûlée par un amour. Si on disait que c'est un amour infini, on se tromperait. Ce n'est pas vrai. C'est un amour éternel, incréé. Fou. Fou, je crois qu'on peut le dire. Parce que ça dépasse, c'est la folie de Dieu, ça. Infini, on ne peut pas. C'est marrant. Et ça brûle notre sensibilité. Et c'est ça, la tendresse. Maternelle se marie, devient une tendresse. C'est une tendresse sensible aussi. Dans une douceur, une tendresse. Le monde végétatif, lui, est substantiellement supprimé dans le corps glorieux.
Le monde végétatif, c'est-à-dire tout ce qui concerne le point de vue de la cause efficiente. Donc, le point de vue, si vous voulez, de sexuel, par exemple, le point de vue de la digestion et des métabolismes. Tout ça, tous ces métabolismes, par exemple, la division microcellulaire, tout ça, qui sont substantiellement dans le devenir, sont totalement disparus. Il n'y a plus aucune vie végétative. Pourtant, on voit bien Jésus qui mange, résister, qui mange du poisson, mais ça c'est pour montrer que c'est vraiment son corps. C'est pas pour montrer qu'il digère. Le poisson a été entièrement assimilé miraculeusement, parce qu'il n'y a plus de vie végétative. Et la vie végétative est résorbée dans le point de vue de la beauté et de la splendeur. C'est pour ça qu'on voit dans l'Apocalypse le minéral, l'émeraude, saphir, la mer de cristal, la splendeur dans la beauté. C'est Marie qui est épouse de l'agneau. Alors du coup, cette mer de cristal est entièrement brûlée par le feu, comme dit l'Apocalypse. Et ce feu, c'est la tendresse de Marie, brûlée par cet amour incréé. Donc il y a une gloire, une béatitude extra-verbum qui permet la charité fraternelle vis-à-vis de son frère, vis-à-vis d'Adam, vis-à-vis de Jésus, et intra-verbum, une amour, une charité où la lumen gloriae, la personne du Verbe, est entièrement une seule vie. Fort, voilà ce que nous allons vivre. Et du coup, la charité fraternelle, extra verbum, avec tous ceux qui ont vécu de Jésus et de Marie, sera continuelle. On va discuter avec Jeanne d'Arc, avec saint Thomas d'Aquin, tout le temps, mais qui sont en train de vivre, pas multiplié par la pénurie justement, mais beaucoup plus, la charité et le caractère étonnamment intéressant qu'ils avaient déjà sur la terre. Souvent on dit, après, j'aurais vraiment aimé, je sais pas, être un compagnon de Saint-François d'Assise. Mais au ciel, c'est ça, multiplier, l'infini ne suffit pas, d'accord? Saint-François d'Assise, c'est vraiment intéressant, ça vaut le jus, hein? Extra verbum, Marie-Reine, c'est ça, vous comprenez? Il y a quelque chose qui est transformé. Il y a une Marie-Reine. Vous comprenez, qu'est-ce que c'est cette histoire de Marie-Reine? C'est cette maternité divine de Marie qui est vierge. Elle est vierge. Esprit de virginité, elle est vierge. Elle est mère. L'humanité du Christ, elle est mère vis-à-vis du Verbe incarné. Elle est vierge, l'esprit, son esprit de virginité, c'est sa contemplation, et elle se termine au Verbe. Et on sent bien que c'est quand même quelque chose qui... Or, c'est à travers son corps qu'elle est vierge.
C'est à travers son corps qu'elle est mère. Une femme, c'est les deux modalités de la femme, d'ailleurs, la virginité et la maternité. Hein. Et elle, alors bon, à cause du péché originel, donc c'est pas normal, du point de vue de la nature humaine, en sagesse créatrice de Dieu, bah, ou bien t'es vierge ou bien t'es mère, hein, c'est l'un ou l'autre. Mais les deux en même temps, kiff-kiff n'existe pas. Mais pour elle, oui. Hein. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort. Donc les deux aspects de son assomption qui sont ici, c'est un corps virginal de femme, c'est un corps virginal de mère. La femme totalement vierge, elle va être livrée, elle se prépare comme épouse vis-à-vis de son époux. Donc du point de vue de la foi, sur la terre, la virginité atteignait le point de vue donc du Verbe de Dieu, sa vie contemplative, et sur la terre, du point de vue de la foi, sa maternité atteignait le point de vue de l'incarnation du Verbe de Dieu. Regardez cette mutation formidable qui se passe. Lorsque Jésus la prend pour l'assumer et qu'elle rentre dans sa propre résurrection à elle, c'est qu'elle va, en tant que vierge, elle va épouser l'agneau de Dieu et vivre une seule chair glorieuse. Et en tant que mère, elle va être assimilée au Verbe de Dieu. Que c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est très compliqué, mais ne vous inquiétez pas, je vais expliquer, parce qu'il faut, c'est avec son corps, donc on peut comprendre pratiquement, si vous voulez. C'est grâce à ça, c'est grâce au fait qu'il y a avec son corps qu'on peut comprendre pratiquement. Donc, j'ai donné, puis maintenant j'explique. Bon. Elle était vierge et mère, ça c'est facile. C'est facile de voir qu'elle était la mère de Jésus. Elle avait porté dans ses entrailles, donné naissance, elle l'a bercé. C'est facile de comprendre qu'elle était mère. C'est avec son corps qu'elle a produit le corps de Jésus, oui ou non? Et en même temps, elle était vierge. Elle est restée vierge. Elle est restée toute pure et immaculée. Rien d'abîmé en elle. Rien. Ni sur le plan du corps, ni sur le plan de l'âme, ni sur le plan de l'esprit. Rien. Aucun péché et aucune brisure. Ça va? Elle reste vierge. Or, c'est bien son humanité de femme qui a été entièrement transformée. Donc, les deux aspects de sa virginité, d'une part, et de sa maternité, d'autre part, ont été transformés. En tant que vierge, elle fait une seule chair glorieuse avec Jésus, parce que vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que dans le mariage, il vaut mieux que la femme garde sa virginité jusqu'au jour du mariage. Hein? C'est la vierge, une femme, c'est en tant que vierge qu'elle épouse un homme, un époux. C'est pas en tant que mère. Ordinairement, je dis, moi, je n'épouse que si elle est mère. Hein. Ah, une petite inversion, c'est pas qui va pas. C'est en tant que vierge qu'un époux épouse, l'époux épouse une vierge. Dans toutes les traditions, c'est comme ça. Même les celles des Zoulous, des Hippopotèques, etc., et des Boros. C'est pas vierge, on la prend pas comme femme, puis c'est tout. On se marie pas. Je sais, j'ai vécu c'est de celui à Oussa, bon, mais j'ai vécu chez les Baoulés, mais chez les Gros aussi, bah écoutez, oui, et bah alors il y a une case spéciale pour celle qui. Ah, ouais, c'est pour tout le monde. Son père de la végété, c'est fini, plus de mari. Plus de mariage possible. Alors dans les civilisations très 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 dépravées, on peut encore se marier à quelqu'un qui a perdu sa virginité. Lorsque dans les sociétés primitives, on avait gardé une petite noblesse, vous voyez, une petite vérité. C'est curieux ça, hein. Lorsque donc, en tant que vierge, elle va épouser l'agneau de Dieu, le Christ, le nouvel Adam. Elle fait une chair glorieuse avec lui. Parce que son corps n'a jamais été abîmé. C'est pour que son corps de vierge puisse être totalement abîmé, brûlé par le corps ressuscité brûlant de Jésus, l'amour. Il ne devait être abîmé que par ce feu de l'amour du corps humain de Jésus ressuscité d'entre les morts. Et sa maternité, en tant que mère, dans sa fécondité, si vous voulez, sa maternité va être transformée. Qu'est-ce que c'est que la maternité? C'est que tu es capable, à partir du corps de tu es une femme, toi tu n'es pas une femme, ni moi non plus, mais je suppose, supposons que je sois une femme, et bien, à partir de mon corps, grâce à mon corps, grâce aussi à beaucoup d'amour, de tendresse et tout ça, sort de moi quelque chose, j'engendre quelque chose. Je produis quelque chose. Je produis même la nourriture pour qu'il puisse croître. Et si j'ai un petit enfant, et si je reste un petit enfant, j'ai besoin de cette nourriture. Je me colle à la mamelle, comme faisait Saint Bernard. Saint Bernard, c'est un moine, et il se mettait devant Marie, et puis il disait, donnez-moi encore du lait. Alors la Sainte Vierge lui apparaissait, et elle pressait son sein comme ça, et il y avait un jet, il recevait le lait maternel de Marie. C'était bon, hein? C'était bon, hein? Et après qu'il ait fait ça, à chaque fois qu'il faisait ça, eh bien après qu'il faisait ça, il parlait, tout le monde se convertissait. C'est pas mal, hein? Et oui, à travers son corps, elle produit, elle engendre quelque chose. Elle t'engendre, toi, elle engendre un petit enfant, elle engendre l'humanité de Jésus. C'est à partir de son corps qu'il y a quelque chose qui sort. Il y a une fécondité quand même. Elle engendre, elle donne naissance. C'est ça une mère, elle donne, elle conçoit, elle donne naissance et elle nourrit. Les trois aspects de la mère. Eh bien, la maternité divine de Marie est entièrement transformée. Pour qu'elle puisse nous concevoir dans le Verbe de Dieu, nous engendrer dans le Verbe de Dieu et nous nourrir dans le Verbe de Dieu. Et vous voyez bien que ça, ça veut dire que Marie est reine. C'est la transformation de sa maternité physique à cause de la lumière de gloire, dans son intelligence, incarnée. Et donc elle produit à partir de son corps rempli de gloire, elle produit quelque chose, elle enfante quelque chose, elle enfante, le Père envoie son Fils, et par Marie, le Père envoie son Fils corporellement, nous, dans notre corps. Et dans son corps eucharistique, parce que le corps eucharistique de Jésus subsiste dans le Verbe d'Eucharistie. C'est une transsubstantiation, donc c'est du côté de la subsistance, et la subsistance concerne le Verbe. Marie joue un rôle direct là, par rapport à l'enfantement eucharistique, au niveau de la transsubstantiation. Sûrement, à titre de cause instrumentale, hein, c'est sûr. Et donc, elle est notre reine. Alors, elle nous conçoit comme fils unique du Père. Elle nous engendre comme dans la lumière éternelle de Dieu. Et elle nous nourrit pour que nous élargissions aux dimensions précisément de cette lumière de la très sainte Trinité. C'est ça, Marie, reine. Si on se met dans son sein, dans ses entrailles, et qu'on redevient un petit enfant dans son sein rempli de gloire, à ce moment-là, ça y est, on devient de plus en plus le Fils de Dieu. Marie nous est donnée pour ça, comme reine. Et quand on dit qu'elle est reine, c'est un nouveau mode de sa maternité divine, elle est mère de Dieu pour nous, mais mère glorieuse de Dieu. Mais mère glorieuse de Dieu, on ne dit pas mère de Dieu, on dit reine à cause de quoi? Parce que c'est plus vraiment mère de Dieu. Pourquoi? Parce que ça ne procède plus d'un acte de foi de sa part. Elle n'est plus dans la foi. Et néanmoins, il y a un engendrement. Alors, on a vu que la maternité, Marie, mère de Dieu, ne peut se faire, ne peut réaliser un engendrement que si c'est à partir d'un acte de foi. C'est le fondement de la maternité divine de Marie. Alors, d'où vient l'acte de foi ? L'acte de foi vient du fait que je reçois en moi Marie comme reine, j'en vis par la charité, je vis ce qu'elle vit avec elle là où je suis, dans la charité, dans la lumière, en pleine vie, en pleine, dans l'unité totale, dans une espérance qui s'élargit aux dimensions de la très sainte Trinité. Et du coup, moi, Saint Jean, mes frères, le pape et tous ceux qui font ça, font cet acte de foi ensemble vis-à-vis de Marie Reine Immaculée. Et l'acte de foi vient bien de Marie, mais Marie à travers nous qui sommes encore dans la foi, et qui engendre cet acte de foi. Et donc, l'acte de foi part encore de nous, de Marie à travers nous. C'est son cœur rempli de gloire, son corps rempli de gloire, son corps de mère rempli de gloire qui vient à travers nous transformer notre acte de foi. Et c'est un acte de foi qui se termine dans la très sainte Trinité et dans la fécondité de la Reine, et qui fait qu'effectivement, à travers ça, le Verbe s'incarne dans notre corps. C'est une incarnation mystique. Et c'est ça qui nous mérite, à nous, de ressusciter à notre tour avec notre corps. Donc vous voyez, c'est plus du tout le même type de maternité que les quatre que nous avions vus. Je sais bien que ça peut paraître compliqué si on essaie de piger ce que ça veut dire. Je comprends tout. C'est, je ne comprends pas avec le cerveau, ça. Ça se comprend. Quand on aime Marie-Reine, c'est ça qui se passe. Et donc c'est pour ça qu'il y a, vous comprenez, le ciel nouveau, la terre nouvelle. Voici que se crée le ciel, la terre. Et donc, pour terminer, donc, il ne me reste plus que 10 minutes, un quart d'heure, eh bien, on lit l'Apocalypse, chapitre 21 et 22, on en était resté. Et donc, je continue la lecture. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Le premier ciel, en effet, et la première terre ont disparu. Vous voyez, les maternités divines de Marie jusqu'à son Assomption ont disparu. Et de mer, il n'y en a plus. La mer, c'est le monde de la vie dans son flux et dans son reflux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça représente tout le monde végétatif, si vous voulez. Tout le monde végétatif. Cette vie végétative où on digère, où il y a la sexualité, où il y a l'engendre, où il y a le... Donc le désir de reproduction, le désir de reproduction d'espèces, hein, le désir de conservation de l'individu, la nourriture, tout ça n'existe plus, la digestion. C'est le monde d'une vie qui implique flux et reflux, le devenir. Ça disparu. Il n'y en a plus du tout. Mais la différence donc entre le ciel, la terre et la mer, hein. Le ciel et la terre disparaissent pour être entièrement transformés, ciel nouveau, terre nouvelle, et quant à la mer, n'existe plus. Marqué là. Mais le monde des passions, des sentiments, de la tendresse, de la sensibilité, sont encore là, c'est la terre brûlée. Pas infiniment, vous sentez bien que c'est infiniment, ça ne va pas. Parce que si c'était une tendresse sensible infinie, tu te rends compte que dès que Sainte Monique se précipite sur toi au ciel, tu es. C'est bien trop, quoi. C'est pas possible. Tu es écrasé. L'infini, c'est la quantité, et donc, c'est écrasant. Ça va pas. Une hippopotame qui se précipite sur toi, ça va pas. C'est un amour, c'est pas infini, c'est un amour d'une qualité intérieure parfaite. C'est la tendresse, si vous voulez, non pas beaucoup, beaucoup de tendresse, c'est la tendresse absolument parlant. C'est la douceur absolument parlant. C'est l'effacement devant toi absolument parlant. L'humilité. Sont deviennent absolument parlants. La charité fraternelle extraverbum au ciel, je veux dire, on va planer. Hein. On va planer. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ça vaut le coup d'en baser un peu sur la terre. Hein. Ça vaut le jus. Hein. Ouais, pour ceux qui vont pas au ciel, ça c'est sûr que. La Vierge l'a dit, hein, l'a dit aux enfants de Fatima, il y en a tellement, tellement qui vont en enfer éternellement. Et Sainte Thérèse de Jésus qui disait, hein, comme des flocons de neige, ils sont si nombreux. C'est inouï le nombre de gens qui vont en enfer. C'est une hérésie qui s'appelle l'apocastasis, de croire que Dieu ne permettra pas que personne n'aille en enfer. Que l'enfer n'est pas éternel. C'est condamné par l'Église, dogmatiquement, définition dogmatique. C'est infaillible. Beaucoup de gens qui disent que l'enfer existe, ok, mais premièrement, il ne sera peut-être pas éternel. Deuxièmement, tout le monde. C'est une hérésie formelle. Oui, mais pas moi. Oui, mais pas moi. Oui, en faisant ma miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu n'est pas infinie. Oui, parce qu'ils sont cartésiens, ocamiens, ontologistiens, etc. C'est pas l'infini. La miséricorde de Dieu n'est pas infini. La miséricorde de Dieu est absolue. Si elle est infinie, elle ne serait pas la quantité totale des hommes. Ce n'est pas l'infini qui est le premier attribut divin. Ça, je suis désolé. Ah ben ça, vous pouvez parler de ce que vous voulez. Moi, je parle de. Je parle de Dieu, moi, je ne parle pas de ce que parlent les gens. Vous ne verrez jamais dans la Bible l'infini. Jamais. Jamais. Trouvez-moi un jour dans la Bible que Dieu est infini. Jamais. Infini, c'est la quantité. Dieu est un. Ça, oui, ça vous trouverez. Il est absolument Dieu.
Il se repart en main. Peut-être Dieu, il va être retourné, mais au moins, c'est comme une écriture.
Oui, oui, la liberté de l'homme, la liberté n'est, oui, la liberté de l'homme n'est pas supprimée sous prétexte qu'il est en train de mourir. Donc si tu as du dégoût pour la prière, si tu as du dégoût pour Jésus, si tu as du dégoût pour les gens, ça fait cucu, leur truc, leur amour, c'est lénifiant, tout ça. C'est pas parce que tu meurs que tu changes d'avis, de goût, d'idée. Absolument pas. Ta liberté demeure et tu gardes les mêmes idées. Tu peux te repentir au dernier moment de la même manière que tu peux te repentir 10 ans avant, de la même manière que tu peux te repentir 15 ans avant. Mais ta liberté, oui, tu peux toujours te repentir, mais n'empêche que tes idées ne changent pas. Et bien justement, c'est ceux qui se repentent au dernier moment, mais ils ont pris des habitudes, donc il faut qu'ils perdent ces habitudes au plus vite. Mais la miséricorde de Dieu, c'est pas l'infini qui est premier, c'est l'absolu. Or, la première miséricorde de Dieu, c'est de faire que les hommes soient libres. Et ça, c'est la miséricorde absolument parlant, que les hommes soient libres d'aimer, donc de choisir leur bien. Et ça, cette miséricorde-là, non seulement est simplicitaire et absoluta, c'est pas absolu, simplicitaire, mais en plus elle est parfaite. Et en plus c'est une surabondance. Et c'est cette surabondance dans cet ordre-là qui est infini. Donc vous voyez bien que ça ne supprime pas la liberté de celui qui n'aime pas et qui ne veut pas choisir Dieu et qui ne change pas d'avis et puis non, je ne regrette pas, et si tu as recommencé, je recommencerai pareil. C'est tout. Et il y en a plein qui sont comme ça. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Pour leur obtenir une grâce actuelle, pour qu'ils aient un petit doute quand même par rapport à leur orgueil. Au moins un doute. Il faut le dire, vous savez, ça. La Vierge nous a dit, dites cette prière, dites-la, Trinité Sainte, je vous adore, dans le Très-Saint Sacrement, je vous adore. Très-Saint Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément, et je vous offre les Très-Saints cœurs de Jésus. Non, c'était pas ça que je voulais, j'espère. Non, c'est pas ça. Voilà. Très Sainte Trinité, je vous adore et je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages qui sont faits, en réparation pour tous les péchés, les outrages qui sont faits à la grâce royale et immaculée de la Vierge Marie. Mon Dieu, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer. Alors, il faut beaucoup prier pour les pécheurs. Vous voyez comme à Fatima, le petit François, petite Hyacinthe, comme ils ont entendu Marie-Reine dire ça, la Reine dire ça. Elle a engendré cette préoccupation de la Reine. Miséricorde absolument maternelle, tendre. Mais ça ne supprime pas la vérité, ça. Sous prétexte de miséricorde, je ne vais pas supprimer la vérité, elle montre. Cacher la vérité, c'est le contraire de la miséricorde. Et c'est là que quand on réalise ça, c'est une vérité, quand on le réalisera, on va comprendre à quel point Dieu nous a fait miséricorde en nous donnant la foi, en nous donnant la grâce, parce que quelqu'un a prié pour nous. Oh mon Dieu, rendez compte éternellement. Ça, c'est du catéchisme, excuse, ça n'a rien à voir avec la maternité divine de Marie, je veux dire. Vraiment, on a échappé à un désastre. Et Jésus, il nous a aimés. Hein. Il ne peut pas forcer, c'est évident, il ne peut pas forcer. Alors je vis la cité sainte, la Jérusalem, célèbre nouvelle qui descendait du ciel, de chez Dieu. Vous voyez bien, Marie-Reine nous est donnée, du coup. À nous, dans l'Église, pour porter la grâce sanctifiante qui nous est apportée à travers le corps eucharistique de Jésus. que nous recevons. Et du coup, notre acte de foi devient l'acte de foi de Marie reine à travers nous. De Marie épouse de l'agneau, puis c'est exactement à travers nous. Et du coup, elle devient reine grâce à notre acte de foi. Et elle engendre dans le corps mystique de Jésus, le Verbe de Dieu, qui fait subsister dans l'unité ce corps mystique. Donc, la Jérusalem d'en haut, c'est la conception, et l'engendrement, c'est la glorification de tout le cosmos, à travers ceux qui sont encore dans le temps et dans le lieu. Et cette fois-ci, c'est nous qui faisons l'acte de foi, qui le font avec elle. Et c'est bien un acte de foi qui est originé dans la gloire de Marie-Reine, qui nous porte à nous dans les sacrements. Et du coup, on fait un acte de foi d'une modalité nouvelle, qui a un terme nouveau, et comprenez, mais ça vient quand même de Marie-Reine, parce qu'on est imbibé par elle, porté par elle, on l'accepte pleinement, librement et totalement, autant qu'on peut, dans une foi tout obscure. Et elle s'est faite belle, vous voyez, la splendeur, plus de mer, mais la splendeur du coup. Elle s'est faite belle comme une jeune épousée, parée pour son époux. Hein? Pour ça, quand quelqu'un se marie, il faut qu'elle fasse tout pour être splendide en tant qu'épouse pour son époux. Qu'elle fasse tout pour être splendide en tant qu'épouse, splendeur. Il ne faut pas que ce soit de la peinture. Il faut que ce soit de la splendeur, pas pareil. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. » Voilà la fameuse réponse. Première question de Saint Jean à Jésus, la première fois qu'il le voit, où demeures-tu? Début de l'évangile de Saint Jean. Et fin de l'Apocalypse, réponse du Saint-Esprit. La demeure de Dieu parmi les hommes, c'est dans cette maternité finale qui est Marie-Reine. C'est là où il demeure. C'est pour ça que tous ceux qui ne font pas partie du groupe de Marie-Reine sont en dehors. On est tous, puisqu'elle est la mère de tous. Elle a été donnée à tous, potentiellement. Mais nous, il faut que ce soit actuel. Et de plus en plus parfait. Parce qu'on fait partie du groupe de Marie-Reine explicitement. Et on fait alliance avec elle. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Vous voyez, au moment de la Pentecôte, Marie faisait une unité, une unanimité dans son cœur rempli de gloire avec tout le cœur des apôtres pour que leur foi ait la même modalité que la sienne. Mais cette fois-ci, son cœur immaculé est totalement transformé par l'Assomption. Brûlé par la Lumen Gloriae quant à sa dimension contemplative d'intelligence. Flambée et détruite par l'unité sponsale de gloire avec l'agneau de Dieu, l'époux, le nouvel Adam, le nouvel Ève, le seul chair glorieuse, parce que Marie épouse l'Esprit Saint qui brûle le corps ressuscité de Jésus. Et c'est ça qu'elle communique sans qu'on en ressente rien dans notre cœur, et qu'on fait un acte de foi, si on veut le faire avec elle, et si on la reçoit comme reine, et si on vit de ce qu'elle vit. Un petit chêne, si vous voulez, quand vous priez, que vous êtes à la messe, ou que vous faites oraison, sachez simplement que par votre acte de foi, par votre humilité, votre accord, si moi je veux vivre de Marie-Reine, vous recevez Marie-Reine que vous avez tout ce que Marie-Reine, dont Marie-Reine et la mère, qui sont là avec vous, en vous, vous récapitulez en vous tous les saints qui viennent, j'allais dire, comme les 700 milliards de cellules de votre corps, constituer votre corps rempli de gloire, glorifié par votre acte de foi. Vous rassemblez tous les saints du ciel, tous les saints du purgatoire, tous les saints de la terre, tous les saints en puissance, tous les saints des derniers temps, qui n'ont pas encore été créés par Dieu. Vous les rassemblez tous dans Marie-Reine. Marie-Reine fait l'unité de tout ça. Et c'est Jésus qui donne le moule à Marie-Reine et l'Esprit-Saint qui brûle tout. Donc vous avez l'Esprit-Saint, le Verbe de Dieu, Marie-Reine, Jésus rempli de gloire, tous les saints, de tous les temps, de tous les lieux, qui sont là, rassemblés dans ce corps. Vous avez la couleur blanche, jaune, bleue, verte et rose ensemble. Ça donne une couleur, je ne sais pas quoi, laquelle. Parce que les cinq sont brûlés par le point de vue de la lumière de gloire, alors ça donne une lumière très spéciale. Les cinq sont là, dans un seul contenant qui est vous, dans votre contenant incarné, c'est votre corps, votre âme, votre esprit brûlé par l'acte de foi. C'est pour ça que l'acte de foi doit être brûlant, fervent, total. Et vous vous rendez compte que tout ça est unifié et pénétré à l'intérieur de la lumière de gloire, dans le Verbe de Dieu, c'est le Verbe de Dieu qui enveloppe tout ça. Et tout ça, nous tous, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, l'Esprit Saint qui brûle le corps ressuscité du Christ, Marie-Reine et tous les saints dépendent d'une origine éternelle qui est le Père. Et nous dépendons tous. Le Verbe de Dieu incarné, l'Esprit Saint dans les sept tombes, voyez, et Marie, et tous les saints sont relatifs au Père. Le Père, c'est le Père. Et ils sont une seule chose, une seule vie. Tous, l'Esprit Saint, le Verbe de Dieu, Marie-Reine, Jésus ressuscité, rempli de gloire, et tous les saints, n'ont qu'une seule vie, une seule relation, et sont liés au Père. Et le Père, nous prenons conscience divinement dans notre acte de foi que d'une manière lumineuse pour ceux qui sont dans la vision béatifique, d'une manière ténébreuse à travers la foi pour ceux, pour nous, mais nous prenons conscience que nous dépendons du Père. Que c'est le Père qui fait que nous vivons ça. Et du coup, on nous en a un acte d'adoration en prenant conscience de ça, en esprit, en vérité. Puisque nous voyons, c'est quoi l'acte d'adoration? C'est de regarder, de voir qu'on dépend d'un autre que nous. Tout ce que je viens de vous dire, ça dépend encore d'un autre que nous. Un autre que le Verbe de Dieu, un autre que l'Esprit Saint. C'est le Père. Nous dépendons, on prend conscience de ça, et du coup, tout ce qu'on vit, on le plonge dans le sein du Père par amour, et avec amour. Et là, j'ai fait un acte d'adoration en esprit, en vérité, puisque je fais ça avec l'Esprit Saint, d'une part, et avec la vérité, le Verbe de Dieu incarné, les deux personnes. Et c'est ce que dit Jésus, chapitre 4, 3, de l'Évangile de Saint Jean à la Samaritaine. Si tu n'arrives pas à aimer, tu as essayé d'aimer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinquième bonhomme, ça n'a pas marché non plus. C'est bien que lequel tu es, alors là, c'est vraiment, c'est pas de l'amour. Échec total à chaque fois. C'est le septième qui est le vrai. Et pour l'expliquer comment on fait, c'est, il dit, ce que le Père veut, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. L'adoration en esprit, en vérité, c'est cette adoration-là. Vous voyez, c'est ça le schème. Hein? Le schème pour faire que votre foi soit originée en Marie-Reine, c'est quand vous êtes assimilé par la foi, l'amour, à Jésus ressuscité. Et vous vivez ce qu'il vit, Jésus ressuscité. Et Marie-Reine, qu'est-ce qu'elle vit? Et l'Esprit-Saint aussi dépend du Père. Il est envoyé par le Père. Le Père, l'Esprit-Saint vient du Père. Le Fils vient du Père. C'est le Père qui engendre un Fils. Éternellement. Donc toutes ces personnes-là dépendent d'une origine éternelle et incréée qui est le Père. Donc nous allons, il faut que nous, déjà, dès maintenant, dans l'obscurité, hein, on n'y comprend rien, hein. Mais déjà maintenant, il faut quand même que on rejoigne cette dépendance du Verbe rempli de gloire, l'Esprit Saint rempli de feu, cet amour absolument parlant et incréé de l'Esprit Saint, et Marie Reine avec toutes ses fécondités, donc tous les saints, et toute la Jérusalem céleste, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent de cette adoration de l'Esprit en vérité. Jésus adore ressuscité en esprit en vérité. Le Verbe de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Il dépend du Père. Je prends conscience, nous prenons conscience. Lui, il prend conscience, et avec lui, je prends conscience que je dépends du Père en tant que Verbe brûlant dans l'Esprit Saint, spirant l'Esprit Saint. Et du coup, j'en prends conscience, et du coup, tout ce que je vis par amour, je me remets dans le sein du Père. Et à ce moment-là, je peux dire avec le Verbe de Dieu et l'Esprit Saint qui brûle le Verbe incarné, et Marie-Reine et tous les saints, je peux dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom, ta personne de Père, soit sanctifié. Et c'est le Verbe de Dieu rempli de gloire, Marie-Reine et l'Esprit Saint qui brûle le Verbe, qui disent ça. C'est pour ça qu'ils disent notre Père. Parce qu'on est plusieurs dans un seul acte d'adoration en esprit en vérité. Et c'est l'acte d'adoration en esprit en vérité du Verbe de Dieu dans le corps brûlant de Jésus. Et l'Esprit Saint qui brûle le corps de Jésus, qui dit ça. Et voilà ce que le Père veut. Il le dit à la Samaritaine. Il veut qu'on aille jusque-là. Alors à ce moment-là, vous engendrez un acte de foi à l'intérieur de la dernière maternité divine de Marie, qu'on appelle la fécondité glorieuse de Marie, qu'on appelle la royauté de Marie. Puisque la royauté de Marie, c'est la transformation dans sa gloire de sa fécondité corporelle du point de vue de la maternité. Elle engendre vraiment quelque chose. Et c'est pour ça que, à partir de cet acte de foi que nous faisons, cet acte de foi va se terminer dans la glorification, c'est ça la fécondité, de tout l'univers, de tout le cosmos. Donc ça va engendrer le retour du Christ, la glorification de tout le cosmos. Mais ça dépend de nous, ça, cette fois-ci. Parce que Marie est au ciel. Ça dépend de l'Église du dernier temps. Donc de nous. Et on sait, d'après l'Apocalypse, que ce sera un tout petit reste. Que pour le grand nombre, la charité aura totalement disparu. Et la foi aussi. On a la certitude que la foi a disparu totalement. C'est une foi qu'une apparence, parce que quand il reste, cette foi sera animée par l'adoration de l'Esprit en vérité, donc c'est totalement caché en Marie-Reine. C'était très très fort. La cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu resplendissant autant qu'une pierre des plus précieuses, comme du jaspe cristallin. Elle est munie d'un rempart de grande hauteur, pourvu de 12 portes, auprès desquelles il y a 12 anges et des noms inscrits. Donc les 12 portes montrent que toute la création peut, grâce à Marie-Reine, accéder de manière vivante à la gloire dont elle vit avec Jésus ressuscité. C'est ça les 12 portes. 3 d'un côté, au nord, 3, c'est tous les 4 coins cardinaux dans tout le cosmos. Alors, il me dit, ne tiens pas secrètes les paroles prophétiques de ce livre. C'est un secret qui doit être dévoilé. 1950. ne tiens pas secrètes les paroles de ce livre. Car le temps est proche. Quand le temps sera proche, il faudra dévoiler le mystère de l'Assomption. C'est ce que l'Église a fait en 1950. Trente-trois ans après que Marie l'ait annoncé, 1917 à Fatima. 33 ans, bizarre, hein? Bon, j'insiste pas sur le chiffre parce que je sais que ça énerve quelques-uns. Ça. Et puis c'est le domaine de la quantité, donc au mieux qu'on fasse, on retomberait sur l'infini. Donc surtout, il ne faut pas. On redevient cartésien un peu. Attention. Donc on revient à l'absolu d'amour et l'acte de foi ténébreux, rempli de gloire. Oui. Ne tiens pas secrètes les paroles de ce livre, car le temps est proche. Que le pécheur pêche encore. Et que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme de bien vive encore dans le bien. Et que le saint se sanctifie encore. Voici, regarde, voici, vois ici, vois, regarde, voici. Que mon retour est proche. À partir du moment où la révélation de l'Immaculée Conception est faite. Dans le mystère de l'Assomption, 1950, ça y est, maintenant l'Église doit annoncer partout qu'il faut se préparer au retour du Christ. À partir du moment où le dogme de l'Assomption a été prononcé, il a fallu faire le concile. C'était la préoccupation de Pie XII, il n'a pas pu le faire. Jean 23, du coup, l'a ouvert, Paul VI l'a fait. Ils ont annoncé que maintenant la messe, c'était plus dos au peuple, le Christ était revenu dans la gloire à la droite du Père, mais face au peuple. Pour montrer que Jésus revient. C'est les deux aspects du sacerdoce du Christ. Et l'Esprit Saint montre que c'est ça. Et ceux qui refusent ça, refusent finalement le fruit du mystère de l'Assomption dans la proclamation dogmatique. Et c'est dans la pauvreté qu'on le reçoit. Parce qu'à la fin du monde, l'Église est dans une pauvreté totale, brisée par Lucifer. Et c'est pour ça que la messe nous paraît beaucoup plus pauvre. Par exemple, c'est un des aspects, mais c'est... Et donc, souille-toi encore, si tu veux te souiller, la liberté n'est pas supprimée. Curieux. Hein? Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils pourront disposer de l'arbre de vie et pénétrer dans la cité par les portes. Donc c'est bien nous qui prenons le cosmos avec Marie-Reine dans notre acte de foi pour rentrer, pour faire rentrer le cosmos dans la cité, donc dans la gloire dont elle vit avec Jésus, l'Esprit Saint rempli de gloire. Dehors les chiens, par contre, hein, n'accepte pas. Dehors les chiens, les sorciers, les impurs, les assassins, les idolâtres et tous ceux qui se plaisent à faire le mal. Donc n'allez pas voir les médiums et les sorciers. Il y a plus en France de sorciers que de prêtres. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, Marie-Reine, la grande messagère. C'est pour ça qu'on est les messagers de Marie-Reine. La reine engendre des gens semblables. C'est la messagère. Et nous, nous sommes les messagers de Marie-Reine. Ce n'est pas par hasard que la Vierge a voulu que ce soit comme ça que ça se prononce, c'est nous. J'ai envoyé ma messagère, mon messager, publiez chez vous ces révélations concernant les églises. Je suis le rejeton de la race de David, l'étoile radieuse du matin. L'étoile du matin, c'est la résurrection. L'étoile du matin, c'est le symbole de la résurrection, vous savez, parce que l'étoile du matin, c'est le début de l'aurore. Et Jésus est ressuscité précisément. Dès que vous voyez matin dans la Bible, ça prophétise, ça signifie ce qui se passe à la résurrection, tous les matins. Chaque matin, ton amour se renouvelle, dit le psaume. Chaque fois que tu vis de la résurrection, ton amour est totalement renouvelé. Le matin, dans la Bible, Jésus restait à la première lueur du matin, l'étoile du matin, c'est la résurrection. Oui. Et ceci, c'est la race de David. C'est le corps de Jésus. La race, c'est physique. Donc c'est le corps de Jésus dans le mystère de la résurrection. Je suis le rejeton de David, l'étoile radieuse du matin. L'esprit et l'épouse disent « Viens ». L'Esprit Saint qui brûle le corps, l'humanité glorifiée de Jésus. L'Esprit Saint qui le brûle, puisque... Et l'épouse, la Vierge Marie, qui épouse l'agneau de Dieu et l'humanité glorifiée du Christ. Disent, viens. Et que l'homme assoiffé s'approche. Donc vous voyez, il y a un lien entre le Saint-Esprit et Marie. Et ce lien, c'est ce fait qu'ils disent la même chose. Donc ils ont une seule vie. Marie est rentrée dans l'Assomption dans un amour absolu. Donc, elle rejoint l'Esprit Saint qui est dans un amour absolu. Alors à ce moment-là, c'est possible pour l'unité des deux de dépasser le point de vue de l'absolu et de se proclamer. C'est Marie, épouse de l'Esprit Saint, remplie de gloire, qui permet qu'il y ait cette proclamation de l'absolu. Viens. Alors que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et ça se termine comme ça. Tout se termine dans la sponsalité qui est entre Marie et l'Esprit Saint pour que tous ceux qui sont assoiffés puissent produire le retour du Christ. Et donc le Verbe de Dieu incarné va faire subsister dans son Verbe, vitalement, toute la création, toute matière, toute vie végétale, toute vie sensitive, toute vie spirituelle, toute vie humaine. La maternité divine de Marie s'était terminée dans son premier moment à l'incarnation. Le Verbe de Dieu s'est assumé son corps à lui, et la dernière fait subsister tout ce qui est assoiffé de gloire, d'éternité, vitalement dans son Verbe. On va faire une seule vie avec lui, avec nos corps, nos âmes, nos esprits. Et donc du coup, on va pouvoir être tout à fait relatif au Père. Et vous voyez, ça se termine comme ça. Tout se termine par Marie, épouse de l'Esprit Saint. C'est mystérieux, hein? Donc c'est la sponsalité de Marie-Reine qui clôture tout et qui nous permet de rentrer dans la sponsalité incréée et éternelle qui rassemble les cinq modalités donc de la maternité divine de Marie. Et cette sponsalité, nous la connaissons depuis le début, c'est la sponsalité du Père et du Fils qui engendre l'Esprit Saint et qui fait que Dieu est Dieu éternellement. Et c'est ça qu'on va vivre. Quand Jésus, par exemple, voyait ressusciter, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, la dernière fois que Marie l'avait vu, il avait un corps d'un homme de 36 ans, bon, qui était cadavérique, là. Bon, qui avait marqué son cœur, d'ailleurs, physiquement. Mais quand il est ressuscité, à l'instant de la résurrection, hein, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toute son humanité, tous les instants de sa vie humaine qui sont ressuscités. Donc Marie a reçu tous les amours dont il a vécu comme tout petit bébé, comme tout petit enfant, comme tout embryon développant, etc. Comme tout petit enfant, comme adolescent, comme homme mûr, comme splendeur de jeune homme, comme etc. Comme Messie reconnu, etc. Toutes ces étapes-là, elle vit de tous ses amours et elle les revit dans son cœur. Tous les amours qu'elle a vécus avec lui, mais surtranscendés dans un feu divin. Et tous ces amours, qui étaient étonnants, quoi, qu'elle avait vécu avec lui, sont tous ensemble dans un seul amour, quoi. Et explicitement, hein, pour elle, c'est fou, elle reçoit Jésus ressuscité dans toutes les formes. C'est pour ça que quand Jésus apparaît ressuscité, il peut apparaître petit enfant, hein. Il peut nous apparaître petit enfant, Jésus ressuscité. Il y a tous les instants de sa vie terrestre qui sont ressuscités. Et Marie, c'est pareil. Marie-Reine. C'est pour ça que quand c'est vis-à-vis du Père, je sais pas, on peut imaginer ce qu'on veut, mais je sais pas comment est-ce qu'elle est quand elle vit cette nuptialité avec le Père. Je crois qu'elle doit être une toute petite fille de rien du tout. Marie-Reine, face au Père, dans l'unité avec le Père, c'est la fille du Père. Quand si un jour l'Immaculée vous apparaît toute petite fille, on dit oh, c'est qu'elle reconnaît en vous peut-être le Père éternel qui vous porte parce que vous aimez Jésus, du coup le Père est chez vous. Ou alors elle désire retrouver à travers vous le Père parce que vous n'aimez pas assez Dieu le Père, vous n'êtes pas complètement. C'est extraordinaire cette. Vous comprenez, tout ce qu'elle a vécu au fond sur la terre, tout ce que Jésus a vécu sur la terre, est revécu absolument, au sens où je viens de vous le dire tout à l'heure, où c'est totalement davantage que l'infini, quoi, plus, infiniment plus, absolument. Et donc, vous voyez, l'amour qu'elle a eu pour Jésus. L'amour qu'elle a eu pour Jésus, l'amour qu'elle a eu pour sa maman quand elle était petite fille, l'amour qu'elle a eu pour Jésus quand elle était mère, hein, qui se donne à vous. C'est une tendresse absolue, quoi. Il faut vivre de ça. Il faut aimer Jésus et Marie, il faut les aimer absolument. À ce moment-là, on a une odeur de l'Esprit-Saint, une odeur du Verbe dans la résurrection de Jésus. Et à ce moment-là, eh ben, je crois qu'on peut rentrer dans la maternité royale de Marie. Voilà. Je crois que c'est quelque chose de. Voilà, on aurait jamais fini de continuer, oui. Ouais, on n'aurait jamais fini de continuer. Alors attention, je déclare, moi, quiconque écoute les paroles prophétiques de ce livre, qui oserait y faire des surcharges. Dieu le chargera de tous les fléaux décrits dans ce livre. Que notre imaginaire ne rajoute rien à ça. Ça ne peut pas s'imaginer. C'est dans l'acte de foi qu'on vit ça. Et qui oserait retrancher aux paroles de ce livre prophétique, il faut en vivre quand même complètement. Dieu retranchera son lot de l'arbre de vie de la cité sainte décrit dans ce livre. Mais comme il a l'habitude de faire ce que Marie fait, tous ses frères sont là, et il continue en disant que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Et c'est là-dessus qu'il s'appuie. Amen. Sur le retour de Jésus et sur la charité fraternelle totale. Amen. Il s'appuie là-dessus. Amen. Amen, ça veut dire je m'appuie là-dessus. En toute vérité.
d'être fidèle à ça, de suivre ça, d'être fidèle à ça, d'être fidèle à nous par ce pas, et d'être avec Mathieu pour suivre à nous par ce pas. Allez, vous serez dans la paix, tandis que le monde se réjouira, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de son angoisse. Dans la joie qu'elle éprouve du fait qu'un être humain est né. Voici maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Jésus reviendra. Jésus est en train de revenir. Et personne ne nous l'enlèvera. Personne ne pourra se substituer au refus. Et c'est à cause de ça, parce que nous avons été choints pour vivre dans la présence de l'âme, de cette royauté, cette maternité de l'âme, que nous sommes dans la tête. Parce que Dieu nous a choisis pour être ceux, à travers la peine de vie, Jésus reviendra dans le monde pour son retour glorieux. Et donc notre peine, elle est bonne, tandis que la joie de ce Fils que Jésus dans le monde, elle est mauvaise. Je vous demande pardon de vous dire des choses qui sont causées évidentes.